Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des plantes et plus précisément de celles que l'on trouve fréquemment ou plus rarement même dans la vallée du Galaison. 72 d'entre elles sont d'ailleurs regroupées dans un atlas paru ce printemps. Et pour en parler, donc, je suis en compagnie d'Émilie Bresse, directrice du syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles, et Émeric Sulmont, garde-moniteur au Parc National, Kizito Cendrier, cartographe au Parc également, et Ingrid Oxbergen, chargée de mission édition au Parc National également. Bonjour à tous et bienvenue.
Bonjour.
Alors, la vallée du Galaison est à cheval sur le Gard et la Lozère. Elle se situe à l'ouest de Saint-Germain-de-Calberte et descend jusqu'à Sandras pour une superficie de 87 km². Alors, quelles sont les particularités, les spécificités de cette vallée ?
Peut-être que je peux démarrer. Donc, bonjour à tous, c'est Émilie Bresse du syndicat de Haute-Vallée-Cévenoles. C'est une petite vallée cévenole, mais qui a ses particularités, mais qui est aussi identitaire des autres vallées cévenoles, d'où on le verra dans la suite de l'émission, mais un intérêt, c'est un exemple d'une vallée cévenole. Ce qu'on peut dire de cette vallée, c'est que c'est une vallée qui, déjà géographiquement, est à l'interface entre une agglomération, l'agglomération d'Alès, et un territoire rural, voire hyper rural, avec son point culminant, en tout cas le point le plus haut étant au niveau du col de Printigarne, avant de basculer sur la vallée française. Et donc on a comme particularité d'avoir un territoire qui est très encaissé, c'est une vallée relativement encaissée, peu desservie, ce qui explique aussi peut-être qu'elle a été préservée. Et puis, on a une partie surtout sur du schiste et puis une partie sur du calcaire. Et donc, cette diversité géologique permet d'avoir aussi une diversité d'un point de vue floristique, faunistique. Peut-être, Amérique.
Oui, eh bien, moi, ce que je trouve très original dans le Galaison, depuis que j'ai découvert cette vallée, c'est que parmi les vallées cévenoles, c'est très probablement une des mieux conservées d'un point de vue des réseaux de chemins et de routes. Toutes les bords de routes sont authentiques, ont été taillés il y a probablement plus de 200 ans. Et ça donne un aspect aux routes. Alors évidemment, on a du mal à se croiser. Ça, c'est quelque chose qui est typique du Galaison. Mais l'avantage pour le botaniste, pour le naturaliste, c'est que les bords de routes, les bords de chemin deviennent extrêmement intéressants à parcourir. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, de beaucoup de vallées qui ont choisi d'ouvrir des grandes voies de communication. Et c'est vrai que du coup, les bords de routes sont moins remarquable. Là, il y a 200 ans et plus même pour que la végétation ait pu se cicatriser ce que les anciens ont taillé au burin. Donc c'est vraiment fascinant ça. Et donc toute la flore là, dont on va discuter, elle a cette particularité-là dans le Galaison. Elle est assez extraordinaire, on va en parler.
Quel est le rôle du syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles dans le Galaison, Émilie ?
Alors le syndicat qui est maintenant un syndicat qui s'étend sur une vingtaine de communes à cheval sur le Gard et la Lozère a été créé il y a plus de 30 ans. C'est un syndicat qui a été créé à l'initiative d'élus de la vallée du Galaison. Donc au départ c'était le syndicat de la vallée du Galaison. Et ça a été sous l'impulsion du parc. Donc il y a un historique entre le syndicat et le parc national des Cévennes. Avec pour point de départ la démarche de l'homme et la biosphère de l'UNESCO. Donc le parc est animateur de la réserve de biosphère des Cévennes, mais à l'époque on pouvait considérer la réserve de biosphère comme un concept et pas une démarche. Et donc le parc s'est tourné vers les élus de la vallée en leur proposant de réfléchir à ce que pourrait être cette démarche. Et donc de fil en aiguille s'est dessiné un projet de territoire. Et ce projet de territoire, une fois écrit, les élus ont eu l'envie de le faire vivre. Et donc on crée un syndicat intercommunal. Aujourd'hui, ce syndicat poursuit sa mission et même s'est étendu à une vingtaine de communes à cheval, donc sur le Gard et la Lozère. Pour citer à peu près le territoire, c'est le territoire, le massif Pas-Maritime Châtaignier. C'est comme ça qu'on caractérise le territoire du syndicat. Et sa mission, c'est vraiment d'accompagner le territoire. Donc le territoire, c'est à la fois les collectivités, mais aussi les particuliers, à mettre en œuvre une démarche de développement durable au sens large. C'est une approche vraiment systémique qu'a voulu développer le syndicat. Et donc aujourd'hui, le syndicat accompagne sur les thématiques de la transition énergétique, du développement agricole, de la préservation de la biodiversité, de l'éducation à l'environnement. Voilà, on a une équipe de 10 salariés qui, dans des thématiques très différentes, mais font de l'accompagnement du territoire à la transition.
Très bien. Et donc, dans le cadre du programme MAB, Man and Biosphère, donc, que vous évoquiez, hein, de l'UNESCO, il y a un observatoire scientifique qui est mis en place en 2007 avec l'appui du parc. Et donc, l'un des objectifs, hein, ce n'était pas l'unique objectif, mais c'était notamment d'inventorier la flore.
Oui. Alors, cet observatoire, en fait, il est né d'un constat. Au syndicat, on était une toute petite équipe à l'époque. On était 4 salariés et on le dit souvent, mais pour bien protéger, il faut bien connaître. Et on avait un vrai manque à ce niveau-là de personnel. Et donc, on s'est dit, nous, on a ce manque. On sent que la population est désireuse de mieux connaître aussi. Et pourquoi pas, finalement, les associer. On les forme et en échange, eux nous apportent de l'information. Et donc, on a créé un observatoire scientifique du territoire. C'était une démarche participative à l'époque. C'était peu développé, mais c'était tout à fait l'esprit. Et donc, cet observatoire avait plusieurs thématiques. Et de par le partenariat historique qu'on avait avec le parc, la botanique est arrivée comme une évidence, en fait. On se dit, on a la chance d'avoir au parc Aymeric Sulmont, qui était sur le massif en question et qui était botaniste. Et donc, on a voulu, en tout cas, nous associer, parce qu'on n'avait pas les compétences en interne au niveau du syndicat, et donc on avait besoin de caution scientifique. Et c'est comme ça qu'on a sollicité le parc pour que sur l'aspect botanique, ce soit notre caution scientifique. Et donc, on a initié des inventaires à partir de là.
Et justement, donc, combien a duré cet inventaire floristique et combien de personnes y ont participé ?
Alors, on a démarré assez tôt en 2007.
Fin 2007,
oui. Fin 2007. Au départ, il y avait peu de personnes parce qu'il fallait le temps de communiquer, que les gens s'approprient. Mais en moyenne, on devait être 4, 5, 6. Des fois, on a pu monter à 10, crois, certaines sorties. Et donc, on a fait ça sur 5-6 ans, je dirais, comme ça, jusqu'à 2012, je crois. Et donc avec Aymeric, peut-être qu'expliquera un peu comment on s'y est pris, mais c'était pas très protocolé, en fait. C'était vraiment de la découverte. L'idée, c'était d'aller vraiment... c'était la quête de la nouvelle trouvaille, quoi. Et Aymeric avait quelques idées très précises où on pouvait aller chercher ces petites trouvailles. Je ne sais pas si tu peux en dire un mot.
Oui, bien sûr. Effectivement, moi, j'ai participé à cet observatoire scientifique sur l'aspect botanique parce que j'avais cette étiquette sur le front. Et j'ai eu vraiment... C'était une grande joie pour moi. C'était la première fois qu'on me confiait, en gros, un territoire à explorer. Et j'ai vraiment eu cette sensation un peu d'être un explorateur accompagné. Et c'était super, en fait, d'être accompagné par une équipe hyper motivée. Et avec un objectif qui était de connaître qu'est-ce qui est rare et intéressant à préserver sur ce territoire, qu'est-ce qui est rare et intéressant à connaître. Et on s'est aussi calqué sur le protocole qui existait déjà, qui était une meilleure connaissance des habitats du castor et de la loutre, et puis des espèces invasives qui ponctuaient le cours du Galaison. Donc à partir déjà de ce protocole, en fait, on s'est calqué au trajet préférentiel de ceux qui prospectaient ces espèces-là, donc les bords de cours d'eau, pour faire nos principaux trajets, en fait, de prospection. Donc on a fait, je dirais presque la quasi-totalité, mais pas tout à fait vrai, il manque encore des ruisseaux à prospecter, mais on a fait une bonne partie du linéaire de ruisseaux. Ça a été le premier grand travail de prospection, et accompagné d'une bonne partie des sentiers qui avaient été réouverts aussi. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les bords de route n'étaient pas du reste, ils étaient hyper intéressants. On a trouvé des espèces rares et protégées sur des parois qui ont été taillées il y a 200 ou 300 ans. Et ça, j'ai trouvé ça assez vraiment original et sympa de vivre cette expérience et surtout de la partager avec des habitants, des botanistes qui venaient parfois de l'extérieur. Ça donnait une émulation lors des sorties qui était, qui était passionnante. Moi, c'est une, parmi les meilleurs souvenirs de prospection en Cévennes, quoi.
Et donc, de toutes vos trouvailles, en fait, il ressort un atlas donc, qui regroupe 72 plantes. Donc, il s'agit uniquement des plantes patrimoniales. Alors, pourquoi s'être focalisé sur ces plantes patrimoniales et qu'est-ce qu'on entend justement par patrimonial ? Qu'est-ce que c'est qu'une plante patrimoniale ?
Alors, une plante patrimoniale, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner. On s'est un peu permis d'avoir une ouverture assez large hein, sur la définition de patrimoniale. Officiellement, les espèces dites patrimoniales sont des espèces qui ont un statut officiel de protection. Donc, il y a un certain nombre d'espèces protégées qui sont concernées hein, dans la vallée du Galaison. Je vous donne par exemple la Drosera feuille ronde, là qu'on trouve sur le mont Lozère, est présente dans le Galaison. C'est une espèce protégée, c'est une espèce patrimoniale évidemment. Et puis, il y a le statut officiel donc de protection. Et puis, il y a des statuts plus locaux, liés à une référence locale, de vraie rareté d'espèces pour la vallée. En comparaison de sa répartition à l'échelle des Cévennes, par exemple, il y a des stations qu'on ne retrouve que dans le Galaison, d'espèces qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et donc, on a considéré que ces espèces qui étaient rares dans les Cévennes et uniquement présentes dans le Galaison ou très peu ailleurs, méritait le statut entre guillemets arbitraire d'espèces patrimoniales. Et puis évidemment, il y a des espèces qui ne sont pas forcément extrêmement rares, mais dont la présence est souvent indicatrice de milieux de très longue continuité. J'en parlais tout à l'heure sur des bords de route, ça paraît simple, hein, mais on pourrait tout à fait imaginer des indices d'ancienneté de bord de route, comme on a aujourd'hui des indices d'ancienneté des forêts. Eh bien, il y a des espèces qui seraient indicatrices. Alors, c'est des espèces parfois assez compliquées à déterminer, mais des lichens, des mousses, pourraient dire que ce bord de route, il a probablement plus de 200 ou 300 ans, et il a été laissé tranquille. Et donc, il y a des espèces comme ça qu'on a choisies, et qui sont indicatrices de très longue continuité, alors soit de milieux aquatiques, soit de milieux rocheux, soit de milieux forestiers. Et elles ont un intérêt à être conservées, à être connues. C'est souvent des espèces qu'on a choisies assez faciles à déterminer. Et en les protégeant, en fait, on protège toute une grande quantité d'espèces un peu plus compliquées à déterminer. Je pense par exemple au lichen pulmonaire, qui est un lichen qui est très présent hein, sur les sommets de l'Aigoual et du Mont Lozère. Un lichen qui est très exigeant sur le côté qualité de l'air et ancienneté de la forêt. Eh bien, il se retrouve dans quelques rares châtaigneraies, dans des ravins pas possibles du Galaison. Et dans ces cas-là, ben, il est indicateur d'une longue stabilité du milieu. Ça veut dire que ce coin-là n'a pas été coupé à blanc, n'a pas été complètement chamboulé par des travaux. C'est l'intérêt, en fait, aussi de ces espèces indicatrices, au-delà des espèces simplement protégées.
Et comme tu le disais, enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans cette vallée, on retrouve à la fois des plantes qu'on ne retrouve qu'en montagne et aussi des plantes plus méridionales. Donc les deux se retrouvent, se mêlent.
C'est le propre d'une vallée, en fait. La partie haute est soumise à une influence montagnarde et donc va drainer par les cours d'eau des plantes montagnardes qui vont descendre dans la vallée. Et à l'inverse, la partie basale est soumise plutôt à une influence méditerranéenne. Et certaines espèces méditerranéennes remontent à la faveur des réchauffements climatiques passés, hein, vont remonter la vallée plus ou moins haut. Et il y a toujours un télescopage qui est toujours passionnant à observer dans les vallées cévenoles. C'est le cas du Galaison, mais toutes les vallées ont ce caractère-là, de voir se télescoper des flores. Alors je vous donne un exemple, la Drosera, oui. On peut la trouver à côté du ciste de Pouzol. L'un est une espèce plutôt montagnarde qu'on trouve sur le mont Lozère, l'autre c'est vraiment une espèce méditerranéenne. Et en plus, typique des Cévennes, c'est-à-dire endémique, on ne la trouve que là dans le monde, et elle est sous influence méditerranéenne. Et on les trouve, on peut les trouver très très proches l'une l'une de l'autre.
C'était pas une surprise pour toi?
Non, mais c'est toujours c'est assez fascinant d'observer comment les espèces peuvent se côtoyer. Mais alors, elles vivent quand même dans des micro-stations qui sont très différentes. Hein. Voilà.
Oui, quand on dit côte à côte, oui. On s'entend.
À quelques dizaines de mètres, elles peuvent être ensemble.
Très bien. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Je salue les mains dans les poches, le cœur dans la gorge. Une semaine m'a semblé un an. Il s'assit tout à côté de moi, ma peau commence à brûler et je cache mes joues rouges. Ses yeux s'allument, je fais la fière devant tous ses copains. Mes lèvres tremblent au souvenir d'une nuit blanche dans ses bras. D'une nuit blanche dans ses bras, il fait de moi un gosse. Je me perds dans son sourire. Il fait de moi une femme. Je me noie dans son corps. La chambre commence à se vider, je suis paralysée, je ne le regarde pas. Il me met la main sur la joue, mon visage est tout chaud et ma bouche est excitée. Ses yeux s'allument, je fonds en dents. Je me sens si chanceuse. Mes lèvres tremblent au souvenir d'une nuit blanche dans ses bras. D'une nuit blanche dans ses bras, il fait de moi un gosse. Je me perds dans son sourire. Il fait de moi une femme. Je me noie dans son corps.
Nous sommes de retour en compagnie de Kizito, Emeric, Ingrid et Émilie pour parler donc de l'Atlas de la flore patrimoniale du Galaison paru ce printemps. Alors très concrètement, Ingrid, comment est organisé cet atlas ?
Alors moi, la première chose que j'aimerais dire à propos de cet atlas, c'est que on est sur un atlas de botanique, sur un territoire qui concerne uniquement une vallée, donc un territoire très circonscrit, et puis sur 72 plantes, donc une sélection de plantes, et en plus toutes patrimoniales. Donc tout porterait à croire qu'on est sur un livre de spécialistes qui s'adresse à des spécialistes. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que y a un état d'esprit qui a été lancé par la démarche portée par le syndicat, qui était un état d'esprit de partage, de faire un inventaire participatif sur la base du volontariat. Donc c'était vraiment cet esprit d'aller ensemble à la découverte des plantes de la vallée. Et ça tient aussi à Émeric, je pense, qui a tenu la plume pour ce livre. C'est-à-dire qu'Émeric a beaucoup de plaisir à partager ses découvertes et ses connaissances, et en particulier avec le grand public. Et voilà, il le fait très bien, il le fait avec cet esprit, comme il l'a dit tout à l'heure, d'explorateur, d'être dans une quête ludique, presque jubilatoire, de découverte du territoire. Et c'est ça qu'on retrouve dans ce livre. Et c'est vraiment cette approche qu'on peut retrouver dans un très beau texte que tu as écrit, qu'on a reproduit dans l'introduction, où il raconte toute l'aventure de lancement de cette opération. Et puis, on a, à partir de là aussi, bien sûr, retravaillé d'une manière très pédagogique le contenu de ce livre.
Et ils s'organisent comment, du coup, très, très concrètement ? C'est par milieu ? Enfin, voilà, quand...
Ouais, c'est une présentation par milieu. À l'intérieur de ces milieux, donc une déclinaison par regroupement d'habitats. Et puis, à l'intérieur de chacun de ces habitats, les espèces présentées par ordre alphabétique, chacune est présentée sur une double page. Sur cette double page, on a la cartographie, donc une carte qui présente la représentation de l'espèce en France, une carte qui représente sa représentation sur le territoire de la vallée, une à trois photographies. Ce sont de très belles photographies, ça je tiens à le souligner, parce que sur des plantes comme ça un petit peu rares, on n'a pas de photographies de photographes professionnels. Parce qu'ils ne savent pas les trouver. Donc ce sont des photographies de botanistes qu'on a, d'amateurs photographes ou de très bon niveau photographique, mais on a une très très belle iconographie. Et puis des textes organisés par rubriques, qu'on retrouve d'une espèce à l'autre pour la décrire. On a fait un travail très attentif de vulgarisation, c'est-à-dire qu'on a évité tous les termes très techniques, autant que possible. On a expliqué les termes un petit peu difficiles en quelques mots dans le fil du texte. Et parfois, quand c'est un mot qui revient dans différents endroits du livre, on a eu recours à un glossaire. Mais c'est volontairement un glossaire d'une page, je crois, enfin tout petit. L'idée c'était vraiment de rendre le texte le plus accessible possible et au plus grand nombre. Voilà.
Et donc ça fait beaucoup de contributeurs pour cet ouvrage. Est-ce qu'Emeric était tout seul ?
Alors, c'est Emeric qui a tenu la plume de bout en bout. Je veux dire deux mots aussi de l'introduction parce que elle est très intéressante de mon point de vue. C'est-à-dire que on a une présentation géographique de la vallée. Jusque-là, c'est vraiment très classique. C'est ce qu'on trouve dans tous les atlas du genre. Mais là où je trouve que le travail a été intéressant dans ce qu'a fait Emeric, c'est que dans la présentation sur le climat, sur la géologie, sur les paysages, donc tous ces éléments qui contribuent à présenter la flore qu'on va y trouver et le monde végétal. Il a vraiment fait les liens avec le monde végétal. Donc, on n'a pas une présentation de chacun de ces sujets, et puis à la fin, le lecteur se débrouille pour reconstituer le puzzle et trouver les liens avec la flore. Il l'a fait à l'intérieur de chacune des parties. Et du coup, on voit toutes les particularités, toutes les caractéristiques de ce monde végétal. On voit sa diversité aussi, on voit son originalité. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant là. Et du point de vue des contributeurs, donc d'abord Emeric, ça vraiment en première ligne, et sur la constitution de la donnée, de la matière, et puis ensuite sur le travail donc de vulgarisation, et puis ensuite on a eu le concours de collègues des conservatoires de botanique qui nous ont fait des relectures très pointilleuses. Hein. Donc conservatoire de botanique méditerranéen. Avec Frédéric Andrieux, Aurélien Labroche du Conservatoire de botanique du Massif Central, Mario Klezewski du Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie. Voilà pour les scientifiques, je crois que j'en oublie pas. Et puis il y a eu des relecteurs aussi du côté du syndicat, y compris... Je crois des personnes qui avaient participé à l'inventaire.
Alors, on a associé en effet, on ne l'a pas dit, mais on a en effet, ces inventaires sont faits donc avec des personnes de la vallée. Et donc, on les a associés en tout cas et informés de cet outil. C'était aussi pour nous une forme de valorisation de leur implication. Et c'était leur rendre l'appareil finalement. Et donc, ils ont bien sûr eu un ouvrage. Ça nous semblait le minimum qu'on pouvait faire. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais ces journées, il y a des fois, on ne savait pas si on allait rentrer le soir. Hein. C'était assez sportif. Vraiment, ils ont tous joué le jeu. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils n'ont jamais fait demi-tour en se disant « mais vous êtes fous ». Donc, c'était un moyen pour nous aussi de les remercier.
Ouais. D'accord. Donc Ingrid le soulignait, l'un des gros avantages, des gros atouts de ce livre, ce sont les cartes, la cartographie, parce qu'effectivement on a une carte donc, du territoire du parc qui cible la vallée du Galaison avec les stations, les autres stations présentes sur le territoire du parc, et puis également une carte de la France métropolitaine où on peut se rendre compte d'un coup d'œil finalement de la rareté de cette plante ou pas. Donc Kizito, c'était quand même un gros travail.
Oui, c'est un gros travail. Alors là, je vais préciser un peu ce qu'a dit Ingrid tout à l'heure. Enfin, moi, on me cite toujours en tant que cartographe, mais en fait, c'est une véritable équipe hein, qu'il y a derrière pour gérer des données. Donc, alors nous, au parc, on est organisé dans une cellule SI, ça veut dire cellule système d'information. Et du coup, voilà, je voudrais quand même rendre hommage à mes collègues, notamment Frédéric Fidon, qui est administrateur réseau, qui gère la tuyauterie en fait informatique du parc, ce qui n'est pas une mince affaire, on s'en rend compte tous les jours. Et après, j'ai aussi une collègue, donc Amandine Salle, qui elle est administratrice de données, donc qui a la haute main sur toutes les données, les bases de données, qui interroge le système, etc. Donc elle, finalement, elle met à disposition plein de données. Et du coup, moi, je suis en fin de chaîne, je récupère la donnée, j'essaye de la présenter le mieux possible sur des cartes. Donc c'est un peu cette chaîne-là, mais qui n'existerait pas si on n'avait pas toutes ces compétences les unes à côté des autres, sachant que voilà, moi, en base de données, par exemple, je ne fais absolument pas ce que fait Amandine. Voilà, donc on part de là. Après, effectivement... alors pour ce qui est de l'Atlas, du coup, on a récupéré des données dans plein d'endroits. Alors tout à l'heure, Émilie parlait de voilà qu'ils avaient effectivement fait de l'inventaire sur le terrain. Donc ça, c'est la base, hein, c'est le producteur de base. Donc il y a plein de gens hein, qui inventorient sur le terrain. Il y a voilà des équipes comme le syndicat. Il y a aussi des naturalistes passionnés comme les Emmerich entre autres. Voilà, il y a des établissements comme le parc. Hein, d'autres gardes-moniteurs font aussi des collègues de terrain. Et après, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que on récupère toutes ces données le mieux possible et comment on les présente. Donc, moi, je vais essayer de faire vite, mais du coup, il y a eu effectivement des gros progrès hein, ces dernières années. Avant, chacun collectait la donnée de son côté, puis chacun avait sa petite base, et puis on mettait ça en commun, et puis des fois, ça se mélangeait, on récupérait les données des copains, et puis après, on se les rebalançait. Du coup, il y avait des doublons, c'était pas pratique du tout. C'est encore un peu le cas, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Et au niveau national, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose quand même pour améliorer ce système d'échange de données. Donc ça a été fait, c'est toujours en cours, mais ça va quand même beaucoup mieux qu'avant. Donc aujourd'hui, donc, on a des producteurs sur le terrain, et ensuite de ça, quand on récupère de la donnée, on la transmet dans un système national qu'on appelle le SINP, Système d'information sur la nature et les paysages. Et du coup, au départ, voilà, il y a un SINP au niveau régional, donc on transmet les données au niveau de l'Occitanie. Ça, c'est un peu le schéma idéal qui ne se passe pas toujours comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Et après, chaque SINP régional va transmettre sur une plateforme nationale l'ensemble des données, donc le SINP national. Et depuis quelques années, on a une plateforme qui existe, donc qui s'appelle OpenOps pour observation libre, hein, parce que il s'agit aussi d'avoir un système où on puisse transmettre, échanger les données de façon libre. Hein. Il n'y a pas de droit sur les données, donc ça c'est très important pour nous. Et voilà, donc cette plateforme OpenOps, donc qui est gérée par le SINP national, j'espère que je ne suis pas trop compliqué dans mes explications, elle est ouverte depuis octobre 2020, et là du coup j'ai pris des notes parce que ça je ne le savais pas. Aujourd'hui, il y a 134 millions de données quand même, vous voyez, au niveau national, qui sont stockées dans cette plateforme, donc c'est quand même énorme. Et après, si je continue un peu plus loin, juste pour vous donner une idée de comment ces données sont gérées et traitées, voilà, il y a aussi un système international qui existe, donc une plateforme qu'on appelle le GBIF, c'est pas très beau comme nom, hein. En mauvais anglais, ça veut dire Global Biodiversity Information Facilities. Donc par exemple, le SINP national va retransmettre ces données au niveau international, et tous les pays le font, et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, il y a à peu près 2 milliards d'occurrences de taxons, c'est comme ça qu'on appelle les données hein, en vrai.
Donc d'espèces.
Alors sinon, c'est pas d'espèces, c'est d'occurrences de taxons, c'est-à-dire on a vu une observation quelque part, on la rentre dans la base de données, ça compte pour un. D'accord ? Les espèces, c'est différent. Enfin, on peut avoir une espèce qui a été vue des centaines de milliers de fois. Voilà. Donc là, c'est pour vous dire, voilà, ça, c'est les observations, c'est à peu près 2 milliards au niveau mondial. Donc vous voyez qu'à partir de cette masse de données, nous, on est capable de récupérer cette donnée et ensuite de ça, la poser sur des cartes en atlas. C'est pour ça qu'on a à la fois des données au niveau extrêmement local, comme le Galaison, le parc, et ensuite de ça, on dézoome et on regarde à l'échelle nationale, et toutes ces données-là viennent du même endroit, puisqu'on les a centralisées au niveau de cette plateforme OpenOps, et du coup, on les récupère, et on bénéficie des données de tout le monde. Donc c'est un peu ça la genèse de la chose, c'est ce qu'on ne faisait absolument pas avant, et qui nous permet maintenant quand même d'avoir, alors ça, Aymeric le dira mieux que moi, mais d'avoir une vue, même si on aimerait toujours avoir des inventaires totalement exhaustif, ça c'est pas possible parce que la réalité terrain fait que voilà, on peut pas le faire, mais on a quand même une répartition maintenant, une vue assez fine de la répartition quand même des différentes espèces sur le terrain, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce système, cette organisation-là qui le permet.
Et c'est tout récent, hein. Donc là c'est assez novateur finalement de pouvoir sortir un atlas comme ça avec des cartes.
Comme je l'ai dit, hein, ouais. C'est le système.
2020, il y a 3 ans.
On est encore au démarrage, je pense que dans quelques années on aura un système encore plus mature, mais au moins tout est en place pour pouvoir effectivement avoir quelque chose qui vraiment tient la route en termes de données, quoi.
Plus personne par rapport à la cartographie, peut-être
Si, pour compléter, mais Guizito l'a très bien dit, hein, mais c'est vrai que c'est la valeur ajoutée de ce document qui fait qu'il a une portée qui est beaucoup plus importante que la simple vallée du Galaison, c'est qu'il présente des cartes à l'échelle de l'ensemble des Cévennes. Et donc, même si on n'est pas dans le Galaison, quand on fait une observation d'une des plantes qui est présentée dans le Galaison, eh bien, on se rend compte de est-ce que cette plante est connue ailleurs en Cévennes. Et oui, par exemple, il y a des plantes, je parlais tout à l'heure de la Drosera, mais il y a d'autres espèces, je pense à la lavande papillon, pour en citer une, la lavande papillon, c'est une espèce qui est très méditerranéenne, et qu'on peut observer dans d'autres vallées que la vallée du Galaison, mais c'est toutes les vallées les plus chaudes des Cévennes, et elle illustre très bien l'influence méditerranéenne la plus forte qui s'exprime dans les vallées cévenoles. Et en voyant la lavande papillon, même si ce n'est pas une espèce très rare à l'échelle de la région méditerranéenne, elle permet quand même de pointer du doigt, là, ce coin-là, c'est chaud, c'est là qu'on peut trouver d'autres espèces plus difficiles à déterminer et qui méritent d'être fouillées. C'est juste un indicateur, en fait, d'influence méditerranéenne très forte, par exemple.
Et ça peut encourager peut-être ceux qui achèteront ce livre de voir, tiens, est-ce qu'elle est chez moi aussi? Ça peut aussi inciter à aller regarder un petit peu plus loin.
Enfin,
voilà, c'est peut-être aussi le but, hein, d'améliorer encore la connaissance grâce à ces cartes. Du coup, Aymeric, vous avez beaucoup parlé de la Drosera, mais bon, il y a sans doute, vous avez sans doute d'autres coups de cœur pour chaque milieu. Alors, quels seraient ces coups de cœur?
Je viens de parler d'un de mes coups de cœur, mes visuels, effectivement, j'en ai parlé, hein, la vente papillon. Et puis j'en ai une, mais ça c'est mon dada, c'est la Célania. Je l'appelle comme ça parce qu'elle n'a pas beaucoup de noms en français, c'est une mousse. Alors on dépasse un peu la flore des plantes à fleurs. Il n'y a pas que des plantes à fleurs. Hein, il y a 6 mousses qui sont présentées. Ça c'est mon petit lobby qui se manifeste comme ça. Et Célania, c'est une plante assez extraordinaire parce que c'est minuscule. Ça ressemble pour le commun des mortels à presque rien. Sauf qu'elle a un caractère qui est très particulier, c'est sa couleur glauque. Et la couleur glauque, c'est une couleur quand on ne sait pas choisir entre le vert et le bleu, c'est ça, glauque. Et c'est donc une définition botanique stricte, hein. C'est vraiment une couleur qui ressemble à la plupart des lichens d'ailleurs. Et cette toute petite plante, elle est extraordinaire en Cévennes parce qu'elle a été découverte dans les années 80, suite à des inventaires dans les châtaigneraies de Saint-Germain-de-Calberte. Et on n'a pas eu de données depuis. Et puis petit à petit, en Cévennes, comme on a commencé à fouiller, on en a trouvé. Et ce qui est original, c'est que cette plante qui est présente dans les vallées cévenoles et notamment dans le Galaison, en fait, ailleurs en France, elle vit à très haute altitude. Elle vit au-delà de 2000 et dans les Alpes et les Pyrénées. On a quelques stations en Auvergne, pareil, à très haute altitude, 1500, 1600. Et en Cévennes, c'est très particulier. On n'a pas encore bien résolu le pourquoi de cette présence. Elle vit entre 180 mètres d'altitude et 700 mètres pour la plus haute, et dans des coins de refuge. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'une plante qui est clairement une espèce de climat froid se retrouve dans le galaison, dans des micro-refuges climatiques, on pourrait appeler ça comme ça. Et du coup, elle va permettre de localiser quels sont les endroits qui vont peut-être permettre à d'autres espèces de se maintenir malgré le réchauffement climatique. Donc ces secteurs-là, ils sont très intéressants à connaître, les espèces qui indiquent, entre guillemets, des refuges climatiques d'espèces froides, parce que c'est là qu'on va devoir mettre un accent de protection supplémentaire dans les années à venir, de façon à essayer de préserver un maximum de nos espèces, même si le réchauffement sera peut-être assez fort, mais on verra ce qui se passe.
Et elle pousse au sol
Alors ça vit. Alors c'est très curieux, ça vit au pied des barres rocheuses en versant nord, mais ça peut vivre aussi dans des très vieilles murettes en pierre sèche qui sont colmatées par de la terre. Elles sont tellement vieilles, ces murettes, que de la terre est venue colmater chaque interstice, et elle vit là-dedans dans des contextes plutôt de ravins un peu abrités, avec une petite connotation montagnarde, mais des fois, elle va vivre à côté d'une autre espèce méditerranéenne, comme la Serapias en langue. Et on a vraiment un télescopage à 3 cm près, et c'est toujours très curieux, ça. Disons que l'humidité résiduelle qu'il y a dans ces microstations permet à certaines espèces montagnardes, des fois, se maintenir, surtout quand c'est des mousses qui exploitent 1 ou 2 cm au niveau du sol. C'est à la fois exigeant et peu exigeant, en fait, hein, sur son habitat. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur, un petit nom, une petite tête qui me plaît bien.
Oui, je voulais juste, là j'entends Émeric qui parle de plein d'espèces, tout ça. J'ai complètement oublié de vous parler d'une plateforme qu'on a mis en place au parc, que vous pouvez voir très facilement en tapant son nom sur un navigateur internet. Donc c'est Biodiff Cévennes. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que ça existe. Par exemple, si vous voulez retrouver une espèce, vous allez sur cette plateforme, vous rentrez le nom, et normalement, enfin si elle existe évidemment, et ben vous la verrez avec pas mal d'infos. Donc ça, c'est l'autre versant de la cartographie. On a une cartographie d'édition, hein, ce dont on vient de parler, qui a toute sa place évidemment, mais il y a aussi la cartographie dynamique, où là vous avez en temps réel la donnée qui est rentrée. Voilà, donc chez nous on a un outil, j'en parle juste là comme ça, qui s'appelle Géonature, hein, qui permet de faire cette espèce de magie où on rentre les données sur le terrain, les agents rentrent les données, et hop, ça se retrouve sur notre outil, et ensuite de ça sur cette plateforme, et du coup en temps réel vous avez un peu l'état de toutes les espèces qu'on a sur notre territoire.
Oui, voilà. Tout à fait. Biodiff Cévennes, donc, qui est accessible à tous et qui est accessible depuis le site internet du parc, donc www.cévennes-parcnational.fr. Émilie, est-ce que...
On peut aussi faire une recherche par commune. Et ça peut être très intéressant aussi, surtout aujourd'hui où on est dans les atlas de la biodiversité communale. Voilà, on peut aussi faire cette recherche avec cette clé d'entrée.
Émilie, est-ce que le syndicat a d'autres projets dans les cartons ?
Alors, d'édition, pas tout de suite, mais en fait, quand même, cette question des sciences participatives au sens large, on parle aujourd'hui de l'Atlas, mais qui est un produit de l'Observatoire scientifique, ça reste pour nous, en fait, un vecteur de sensibilisation, d'implication citoyenne important. Donc on a à cœur de poursuivre, en fait c'est beaucoup de temps d'animation que de faire vivre des sciences participatives. Donc à travers nous, l'équipe qu'on a à Biosfera, le centre d'interprétation des vallées Cévenoles à Sandras, on a une personne qui maintenant est dédiée, s'occupe des sciences participatives, et on essaie d'animer des outils qui existent, qu'on ne crée pas nous, hein, qui sont souvent chapeautés et mis en œuvre par le muséum, les dispositifs de viginature qu'on appelle. Et donc on a notamment, on veut développer un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des saisons, en lien avec la botanique, justement, parce qu'on s'interroge, mais comme tout un chacun, sur l'évolution de la végétation sur nos territoires. Et donc cet observatoire permet de suivre la phénologie, c'est-à-dire l'évolution, la mise en feuilles, la floraison des plantes, etc. Et donc on va voir avec les écoles aussi si on peut développer avec eux ces observations pour mieux connaître l'évolution de la végétation dans un contexte de changement climatique. Voilà un exemple de ce que, des projets qu'on a. On a aussi lancé un comité citoyen. Donc là, on fera la première réunion à la rentrée, là, de septembre-octobre. Là, pour faire de la... C'est une démarche citoyenne, mais du coup, sur des thématiques beaucoup plus larges que l'Observatoire. L'Observatoire est sur le volet biodiversité. Et là, c'est plus globalement sur tout ce qui concerne la transition énergétique et développement durable du territoire. Et donc, comment on implique la population Donc on va construire ça avec les personnes qui sont inscrites à ce comité citoyen.
Et c'est beaucoup voilà. de personnes ?
Alors la première enquête qu'on a faite juste avant le Covid, donc ça nous a un peu ralenti, le Covid dans notre dynamique, mais on était à près d'une centaine de personnes inscrites. Donc bon, je ne sais pas si la motivation est toujours là, on le souhaite. Donc on a relancé pour voir en effet... qui étaient toujours motivés ou si on avait des nouveaux inscrits. Et donc voilà, on reçoit là en ce moment justement les demandes d'inscription à ce comité citoyen pour co-construire avec eux cet automne le fonctionnement de ce comité.
Très bien. Donc Ingrid, donc l'Atlas de la flore patrimoniale du Galaison est candidat au Cabri d'Or, donc un prix qui sera décerné cet automne.
Oui, tout à fait. On a eu envie de le présenter. Donc notre candidature a été retenue. On est dans la présélection pour ce prix littéraire là qui est décerné par l'agglomération d'Alès en partenariat avec la librairie Storms. Voilà. La
C'est dans quelle catégorie ?
Alors. On est dans aucune catégorie. On est dans aucune catégorie.
Hors catégorie.
On est hors catégorie. Ouais, en effet, c'est plutôt des romans qui sont présentés. On n'est pas tout à fait. On n'est pas dans un cas de figure très classique avec cet atlas. Hein. La plupart des livres sont des romans qui concourent. Il y a une catégorie beaux livres. On n'est pas franchement non plus dans une catégorie beau livre, même si c'est un très beau livre. Nous, on est dans un atlas, donc avec toute la rigueur scientifique que requiert un travail de ce type. On est dans un guide de terrain. C'est un livre qu'on a fait pour ça, pour l'emmener avec soi sur le terrain. C'est un beau livre parce que il y a eu un travail graphique de mise en page qui en effet est très beau, avec de la recherche. Il y a un code couleur pour emmener le lecteur d'un milieu à l'autre. Il y a une nuance de cette couleur pour les habitats qui sont déclinés à l'intérieur de ces milieux. On a une petite plante qui est à la fois un repère dans la partie, mais aussi un élément visuel, graphique, esthétique, donc dans les pages. Bon, y a une très jolie typo qui rappelle aussi le végétal. Voilà. Bon, il y a tout ce côté travail, et puis travail sur l'objet aussi, mais on n'est pas franchement dans une catégorie beau livre, quoi. Donc voilà.
Donc s'il a été retenu, c'est que voilà, il avait tout à fait ses chances.
Oui, il est retenu en tout cas pour le moment. La sélection de septembre nous dira si on va plus loin. Là, il devrait rester une dizaine de livres en compétition. Et puis le prix, lui, est décerné en novembre. Voilà.
Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour clore cette émission ?
Ah si, j'ai encore envie de remercier moi tous les observateurs qui nous ont accompagnés, parce que c'est vraiment eux qui ont donné un peu l'énergie à cet atlas. S'ils n'avaient pas été là, moi je me serais ennuyé, faire ça tout seul dans mon coin, c'est vraiment pas drôle. Et du coup ça a rendu tout le projet très collectif. Et puis sans Émilie et puis le syndicat, tout le côté animation de cet observatoire, c'est pareil, ce livre ne serait jamais sorti. Donc c'était vraiment important qu'il y ait un volet animation dans un projet et puis une participation des habitants. C'est hyper important, ça a donné du tonus à toute cette démarche. Quoi.
Et c'est une démarche qui est complètement assimilable aux ABC qui se font aujourd'hui. Mais elle a été lancée 10 ans avant les premiers ABC. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve. C'est quelque chose qui était complètement novateur.
Et ça peut inspirer peut-être des communes aussi qui terminent là leurs ABC de, bah, d'éditer également les ouvrages La faune et la flore de Saint-Privat, de Saint-Germain, de Vialas. Ça peut peut-être donner des idées.
Oui, oui, bah, j'aimerais. Mais après, il faut du temps pour rédiger tout ça. Mais je pense que l'outil dont a fait la pub Kizito, Biodiff Cévennes, il va être là pour ça. Il est en cours de développement. Il faut encore qu'on complète le descriptif de chacune des espèces présentes. Et il y en a de noms très nombreuses, hein, beaucoup plus que dans cet atlas, puisque là, toute la biodiversité, que ce soit la faune et la flore, les champignons, tout est présenté. Il y a plus de 9000 taxons ou 10000 taxons au total, donc 10000 espèces différentes, c'est beaucoup. Et tout ça mérite d'être rendu plus facile à lire, mais c'est déjà extraordinaire de pouvoir avoir une localisation de chacune de ces 10000 espèces qui est connue en Cévennes, quoi.
Depuis très longtemps. Hein,
Les premières observations de quand datent-elles? Dans les archives, on a des très vieux trucs, mais je ne sais pas s'ils ont été cartographiés, puisque des gens comme De Candolle, qui datent de la fin du 18e, fin du 18e, ont fait des observations botaniques en Cévennes, et on retrouve leur écrit... Mais je ne sais pas si on a les traces de ça.
Il me semble qu'on a quelques données dans les années 1680 et quelques,
oui, donc,
mais très peu, hein, ouais. Mais effectivement. Voilà. Mais après, le démarrage réel, c'est plutôt quand on a commencé à avoir des outils, donc plutôt, on va dire, à partir des années 80-90. Quoi.
Ouais.
Voilà.
Très bien, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Séquence Parc.
Merci.
Merci. Merci.
L'Atlas de la flore patrimoniale du Galaison est en vente à la Maison du Tourisme et du Parc à Florac ou à Biosfera à Sandras au prix de 20 euros. C'est la fin de cette émission. À très bientôt. Le day day boom da 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 day, le day boom 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 da da day, le day do da boom ba da da to day, day day day, le day do doom ba da to ba, le day boom ba boom do ba boom do ba, le day do day da boom ba boom ba to day ba, day.